Maurice Rollina, prairies enchantées. Ayant été orageux et assombri, coupé de pluie et de rafales, ce mois de mai-là finissait dolent et triste, avec des apparences, des coloris et des saveurs d'automne. Je m'étais enfoncé dans une contrée sauvage où je m'aventurais pour la première fois. Et par cette journée grise, de langueur et d'emballement recueillis, plus je m'avançais, plus mes regards s'ébahissaient de tout cet inconnu de paysage. Le ciel avait une couverture uniforme de nuages blanc-bleuâtres et couleur cendre et fumée, dont, çà et là, les déchirures et accros formaient de mini-sols d'eau d'azur et de lumière, ce qui adoucissait la gravité des feuillages, déchagrinait un peu la mélancolie de l'espace. De même teinte que le firmament sous son lumineux vernis, ayant elle aussi, par endroits, dans la monotonie de sa surface, du lumineux et du bleuâtre, la rivière, grandie, dont je longeais les détours, coulait, battant ses bords, chargeant toujours davantage d'ondulations d'écume, le clapotis de plus en plus roulant de ses ondes massives et dentelées. Et tout à coup, je m'arrêtais, véritablement fasciné, par le site extraordinaire qui surgissait devant mes yeux. En face de moi, de l'autre côté de la rivière, je voyais des grandes pâquages, des bruyères prairies, disposées en étages, n'ayant d'autre horizon qu'elles-mêmes, et montant ainsi par gradins, aussi haut que les collines les plus élevées. Et quelles prairies enchanteresses de rêves poétiques, de magie fauve et d'étrangetés pittoresques, toutes vertes avec d'harmonieux fourmillements de toutes les fleurs des champs et des forêts, à la fois rocheuses et boisées, et miroitant vagues de tous côtés par le luminement discret de leurs mares, de leurs fantômes, de leurs fontaines et de leurs flaques, avec leur sauvagerie hautaine, leur difforme, leur monstrueuse de structure, avec leur caractère de fantastique et leur expression d'éternité, affectant dans leur majestueuse attitude toutes les figures, toutes les formes, depuis le tombeau jusqu'au donjon, depuis la bête jusqu'à l'homme, des rochers de toutes les teintes surgissaient du sein des herbes et des plantes, trônaient dans l'épaisseur des genévriers et des houx, des buis énormes et des ronces. Les allumant à demi comme à travers un treillis de gaz, le presque invisible soleil ajoutait encore au bizarre de leur apparence, ce qui palpitait, vibrait, s'animait d'un perpétuel va-et-vient d'ombres louches et de lumières pâles, du tressaillement des avoisinants feuillages et de l'arrivée de quelques grands oiseaux qui les éventaient en s'y perchant de ces claquements battonnant d'ailes. Quant aux arbres, c'étaient certes les plus beaux, les plus tragiques, les plus nobles que j'ai jamais vus. Au bord de la moutonnante rivière, au bas, au milieu, sur le bout de ces vastes prairies, ils abondaient, prestigieusement distribués, offerts au regard avec un art particulier de la nature. Vert clair et foncé, trapus et géants, monumentaux et sveltes, ils couronnaient ce monde de verdure, fleuri d'un l'empanachement triomphal. Devant les rocs, les uns, troncs nus et paumés de la cime, ou rectilignes et fuselés, semblaient des sentinelles de l'espace, inspectantes et fières. Les autres, noueux, tordus, comme en prière, renfrogneusement agenouillés, avaient l'air de raconter leur songerie aux profondeurs de la terre, inclinaient leurs fleurs, comme pour s'en consoler, le poids sédentaire de leur mélancolie, et ceux-ci, courts et feuillus jusqu'en bas, que l'on ne voyait pas, traces de leur fort rond écorce, représentaient de grandes fées végétales, de gigantesques génies et fantômes verdâtres, qui, se comprenant à seulement confronter, échangeaient, en torpeur, les frissons du passé, de ombres, de gestes, de colloques, de silence. Ceux-là, plus ou moins évasés, fourchus, formaient de volumineuses lyres et harpes qui semblaient accuser l'ennui d'être au repos dans les airs et de ne s'y pas jouer sous les doigts musiciens des brises, la symphonie des branches ou la chanson des feuillages. Il y avait des châtaigniers, colosses, à rameaux coudés et retombantes, imitant des voûtes d'églises souterraines, des arches de vieux ponts où, pour l'œil, profond paysage adopté pour la circonstance, apparaissaient comme d'énormes peintures vivantes, bordurées, vert d'un cadre courbe. Et j'en admirais aussi plusieurs, configurées telles que des ceps, arrondies et tortureux, qui faisaient planer un plafond vert noir au-dessus des herbes, y portait une ombre livide et bougeuse, où cueillaient les regards s'attendant à y voir s'ébaucher, comme dans les rêves, des brumes d'apparition et des vapeurs de forme. En même temps qu'une signification de beauté grave et imposante, de solennelle singularité, traduite par leurs teintes, leurs attitudes et, si j'ose dire, par leur physionomie, ils montaient de tous ces arbres une exaltation de languissante pensée, d'anxieuse attente, de songes moroses et léthargiques. Il vint un instant où le vent s'éveilla, qui fit cesser l'inerte sommeil des arbres et des fleurs, lesquels, d'abord, parcourus de frissons épars, de tremblaisons errantes, pareils à des vagues frémissements de la vie, se mirent à se balancer, à se ployer, à s'agiter, élastiques, à onduler comme la rivière. La vision délicieuse d'innombrables papillons de toutes les couleurs, voltigeant, emmêlés au ras d'une vaste étendue gazonnée, m'était réalisée par la souplesse des bercements de cette grande nappe omnicolore. Eux aussi, les arbres frémirent, eurent des mimiques de réveil, gesticulèrent, s'émurent. Puis, les brises s'animant au large des airs, ils commencèrent en bizarres soupirs, en plaintes équivoques, en mugissements lointains et incertains, tant ils étaient vagues. La houleuse mélopée des feuilles, mais si profonde, si expressive et mystérieuse, si clameuse d'angoisse, si chantante de tristesse, qu'assurément pour moi, l'écouteur familier de toutes les voix des solitudes, ces musiques d'arbres en cet endroit fantastique étaient le plus saisissant, nouveau, du plus étrange, inattendu. Ce ne fut d'ailleurs qu'une courte halte dans le silence et l'immobilité des choses qui reprirent toutes en même temps leur stupeur et leur taciturnité. Mais ce qui plus encore me cloua de surprise, me confondit d'admiration jusqu'à l'extase, ensorcelé, ce fut sur tous les points de ces prairies, particulièrement au milieu, un prodigieux amoncellement de jeunesse épanouie, miraculeusement dans le fleurissement de leur jaune. Certes, alors, ces arbustes étaient le fourmillant décor des ravins, des plaines et des vallées, grimpaient les côtes, escaladaient les cimes, ornaient avec une débordante profusion les abords des calvaires, des ruines, des vieux murs, des halliers, des antiques buissons, étendaient aux lisières des forêts, penchant leurs immenses fresques si somptueusement mélancoliques, imposante évocation dans le démesuré des immortels cimetières parmi ces rues vermignales et bruns qui figuraient dans ces arbres humides de gigantesques et glorieux mausolées. Si féerique était l'éclat des genêts, si despotique leur attirance, que malgré le voilé du jour, ils éblouissaient mes regards comme par le plus ardent soleil. Je ne voyais plus qu'eux dans cette solitude. Ma béante contemplation s'y absorbait tout entière. La vie et la mort s'exhalaient, se célébraient, clamaient leur majesté dans cet énorme épanouissement végétal où, éclaircies radieuses, aiguisées, stridentes, s'amalgamaient, se confondant dans sa propre couleur, les plus riches teintes des chromes et des chlores, des safrans et des ocres, des ors et des topazes. Pour avoir poussé de pareilles tailles, si plein, si ramassé, si pelotonneusement compacte et soulevé, un fleurissement lumineux d'un tel immaculé jaune, d'un coloris si unique de fraîcheur et de brutilance, d'un tout neuf aspect si persistant, il fallait, me dis-je, que les racines de ces genêts privilégiés de la nature partissent des entrailles même de la terre, y pompant dans un peu de son âme la crème de sa force et l'élixir de sa sève, ou bien, autant que j'en pouvais solliciter, induire par la surprenante architecture de cette solitude, par la parlante morosité des choses qui la meublaient si étrangement, le magique pouvoir qui les enchantait avait jeté sur eux le plus luxuriant de ses charmes. Si languissante qu'elle fût, la journée ne s'était point passée sans averse, d'ailleurs aussitôt dissipée que survenue, et toujours dans le plein sourire de la lumière qui semblait vouloir traverser les nuages que pour se mouiller de leurs larmes. Et voici que ce foisonnant paysage me terrifia presque à force de beauté solennelle et grandiose, m'apparaissant tout à coup sous deux arcs-en-ciel, l'un sur l'autre, sous deux arcs de triomphe de l'espace, superposés, magnifiques, qui arboraient dans la gloire triste des cieux leurs caractéristiques sept couleurs, intensément vives et tranchées, joutant la nue de leur cime, enferrant leurs pieds dans les dessous des profondeurs, et par où s'engouffraient entre les quatre horizons d'un bleu louche assombri qui formait l'orage d'un flamboiement surnaturel, d'un fulgurant, d'apothéose. Mon admiration était extasiée encore devant ces merveilles, mais comme je partais à regret, la nature me ménageait une nouvelle surprise de féerie, car au tournant de la colline, sous un ciel maintenant mauve et lilas, barbouillé de grandes traînées de flammes roses et de vapeurs de cuivre, tout à fait au sommet plat de cette fantastique prairie, des petites touffes de fleurs de genêt, oblongues et rondelettes, éparses une à une ou ramassées par groupes minces, singulièrement exactement, simulèrent à mes regards un immense troupeau de moutons jaunes disséminés qui bontrochaient songeusement dans le vert pâle du crépuscule.